VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition du Monde aujourd'hui, du lundi 21 août 2017 au sommaire. Au Niger, l'armée affirme avoir abattu une quarantaine de combattants de Boko Haram dans la région de Diffa. De retour à Abuja, après plus de trois mois d'absence, le président Muhammadu Buhari déclare que l'unité du Nigeria n'est pas négociable. En Angola, dernier jour de campagne avant les élections de mercredi, sans le président sortant Eduardo dos Santos. Les Américains dorment pour observer la première éclipse solaire totale depuis 1918. Et dans la partie magazine, retour sur la personnalité de Salif Diallo. Il est le président de l'Assemblée nationale du Burkina, décédé ce week-end.
C'était le faiseur du roi, mais lui-même il ne pouvait pas être roi.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'armée nigérienne annonce avoir tué une quarantaine de combattants de Boko Haram dans la zone de Barwa, au nord-ouest de Diffa. Au moins un soldat nigérien a également perdu la vie à la suite des blessures, ont indiqué aux correspondants de VOA Afrique au Niger des sources militaires et gouvernementales. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est adressé aujourd'hui à ses compatriotes après son retour au pays. Il a passé trois mois à Londres pour des raisons médicales. Eric Manirekiza.
Le discours de M. Buhari a duré 6 minutes. Il a promis de renforcer la lutte contre Boko Haram, les kidnappings, les violences entre agriculteurs et éleveurs et les violences ethniques. Il a assuré de les éliminer toutes, précisant que l'unité du Nigeria n'est pas négociable. Muhammadu Buhari était en congé médical à Londres depuis le 7 mai. Il s'est dit être heureux de revenir au pays. Et à la suite de son allocution, une lettre au Parlement a officialisé la passation du pouvoir avec son vice-président qui assurait l'intérim. Le président Buhari n'a fait aucune mention de son état de santé. Il est apparu toujours fragile, malgré sa meilleure condition physique par rapport à son retour en mars dernier.
En République démocratique du Congo, le bilan du glissement de terrain survenu mercredi dans l'Ituri, dans le nord-est du pays, s'est alourdi. Selon les autorités, au moins 140 personnes ont péri. Nous estimons à au moins une centaine de corps ensevelis sous les décombres de grosses pierres qui sont tombées sur 48 maisons, a déclaré le vice-gouverneur qui a aussi annoncé la suspension des opérations de recherche. L'Angola vote mercredi pour les élections générales qui devraient marquer la fin du règne du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Salwa Diafari.
Ces derniers jours de campagne à Luanda, les meetings politiques se succèdent dans une atmosphère chargée. Dernière ligne droite pour convaincre un électorat qui semble hésiter à tourner le dos au parti au pouvoir, le MPLA devrait une nouvelle fois l'emporter et installer son candidat et dauphin désigné, l'ex-ministre de la Défense João Lourenço, dans le fauteuil de chef d'État. La coalition des partis d'opposition, la CASAC, a tenu sa dernière réunion dimanche. Abel Tshivukuvuku, transfuge de l'UNITA, a encore martelé un message pour le changement.
42 ans de souffrance, 42 ans de frustration, 42 ans de mauvaise gouvernance, 42 ans de corruption. C'est pourquoi nous devons changer radicalement la qualité de vie des citoyens angolais.
Enfin, Isaias Samakuva, à la tête de l'UNITA, principal parti d'opposition, espère aussi prendre sa revanche sur Dos Santos, qui prend sa retraite après 38 ans de règne.
Les islamistes somaliens d'Al-Shabaab ont annoncé avoir tué 7 soldats burundais dans une embuscade. L'attaque a eu lieu dans la région de Shabelle centrale, selon les Shabab. De son côté, l'AMISOM, la mission africaine en Somalie, n'a pas confirmé l'attaque mais annonce sur son compte Twitter l'arrivée d'un nouveau contingent burundais. Le Maroc est sous le choc après la diffusion d'une vidéo montrant un groupe de jeunes agresser sexuellement une jeune femme dans un bus. La presse dénonce une scène insoutenable et annonce l'arrestation de 4 des 6 agresseurs. Diffusée hier sur les réseaux sociaux, les images suscitent une salve de réactions indignées sur les réseaux sociaux et dans les médias marocains. L'ONU, qui a reçu moins d'un quart des 804 millions de dollars pour le Soudan, a appelé les donateurs à accroître l'aide humanitaire à ce pays. Martha Wades, la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, a indiqué que seulement 23% de l'aide humanitaire au Soudan pour 2017 avait été levée, soit environ 182 millions de dollars. Des centaines de milliers de Soudanais vivent toujours dans des camps après avoir été déplacés par le conflit au Darfour, dans l'ouest du pays, un conflit qui a débuté en 2003. Au Soudan du Sud voisin, la crise humanitaire pourrait s'aggraver si les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés. Le président du Comité international de la Croix-Rouge en visite en Ouganda a lancé cet avertissement. Peter Moore a mis en garde contre un cercle vicieux si les fonctionnaires sud-soudanais travaillant dans des secteurs comme la santé ou la distribution de l'eau ne reçoivent pas leur salaire. Deux Soudanais impliqués vendredi soir dans une rixe mortelle dans un foyer d'insertion près de Calais, dans le nord de la France, ont été inculpés ce lundi et placés en détention provisoire. Un Français de 22 ans a été tué lors de cette rixe près de Calais, d'où de nombreux migrants tentent de gagner la Grande-Bretagne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police espagnole plutôt a abattu Younes Abu Yacoub, auteur présumé de l'attentat de Barcelone il y a 4 jours. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon la police, Younes Abu Yacoub a été tué à 50 km de Barcelone. Le Marocain de 22 ans avait été décrit comme un homme très dangereux. Parmi les 12 suspects, 6 ont été abattus et 4 arrêtés et placés en garde à vue. Deux hommes dont l'identité n'a pas été révélée ont péri mercredi dans l'explosion d'une maison à Alcanar, à 200 km de Barcelone. La police catalane dit avoir découvert sur les lieux 120 bonbonnes de gaz butane. C'est peu après que la cellule est passée à l'action à Barcelone et Cambrils. Le bilan des attentats a été revu à la hausse. 15 morts maintenant. La dernière victime est un homme dont la voiture a été usurpée par Younes pendant sa fuite. Toutes les victimes ont été identifiées, dont 2 enfants de 3 et 7 ans. Ces attentats à la voiture Bélier ont été revendiqués par le groupe État islamique.
Le président américain Donald Trump présente ce soir sa stratégie sur l'Afghanistan avec l'envoi attendu de soldats supplémentaires pour aider le régime de Kaboul dans l'impasse face aux talibans, 16 ans après les attentats du 11 septembre qui avaient poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive pour déloger le régime taliban au pouvoir à Kaboul. Le fragile État afghan est menacé par les talibans et la montée en puissance de l'organisation État islamique dans ce pays. Un nouvel ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, est un diplomate chevronné. Il était jusqu'ici vice-ministre des Affaires étrangères et il remplace Sergei Kislyak, accusé par les médias américains d'avoir conspiré pour faciliter l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, une accusation qu'il a toujours rejetée. Les États-Unis attendaient avec passion leur première éclipse solaire totale depuis 99 ans. Surnommée la Grande Éclipse américaine, elle sera visible aujourd'hui dans 14 États, dont certains vivent déjà l'expérience. Les précisions de Dilly Dico.
L'enthousiasme est palpable à mesure que le moment magique approche. Des millions de touristes et d'astronomes amateurs ont pris d'assaut les villes et les États où l'on pourra observer la Lune cacher le Soleil. L'obscurité va durer quelques dizaines de secondes. Au moins 12 millions de personnes sur une bande large de 113 km dans 14 États américains pourront en être témoins. C'est dans l'État de l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, que l'éclipse sera visible en premier. Et elle sera totale à 17h20 GMT. 1 million de visiteurs sont attendus dans cet État pour voir ce phénomène qui ne s'est pas produit aux États-Unis depuis le 8 juin 1918. Quelques nuages sont prévus dans certains états, mais le ciel devrait être clair dans l'Oregon, où la plupart des restaurants et des hôtels affichent complet. Sur sa trajectoire, les lunettes spéciales permettant d'observer le phénomène s'arrachent, y compris ici, à Washington, où l'éclipse ne sera que partielle. Elle achèvera sa traversée des États-Unis à 18h48 GMT, en Caroline du Sud, sur la côte atlantique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à accepter sans rancune l'évincement d'un général à la tête des forces spéciales. L'officier supérieur l'avait pourtant soutenu lors de la tentative de putsch de juillet 2016. Les médias ont rapporté ce lundi que le général en question souhaitait démissionner après avoir été démis de ses fonctions de chef des forces spéciales pour être assigné à un corps moins prestigieux. Aucune raison n'a été fournie. Cette décision survient alors que, après que des chefs des armées de terre, de l'air et de la marine ont été remplacés au début du mois. Au Brésil, l'armée et la police ont lancé une nouvelle opération contre le crime organisé dans des favelas parmi les plus violentes de Rio de Janeiro. C'est la troisième opération en deux semaines dans la deuxième ville du pays, frappée par une crise économique aiguë. Des hommes de l'armée de terre, de l'air et de la marine, ainsi que des policiers et des agents du renseignement fédéral, ont procédé à des raids dans sept favelas, a annoncé le bureau de la sécurité de l'État de Rio de Janeiro. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Anastasie Toudiech.
En République démocratique du Congo, plus de 150 employés de la Bralima, filiale congolaise de Heineken, le numéro 2 mondial de la brasserie, viennent d'obtenir 1 300 000 dollars de compensation pour licenciement abusif il y a 15 ans. Ces licenciements ont eu lieu pendant la guerre civile de 1998-2003 à Bukavu, au sud Kivu, alors occupé par le Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD. L'Afrique a accueilli 57,8 millions de touristes en 2016, soit 4,4 millions de plus qu'en 2015. Cela représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde, mais leur nombre pourrait atteindre les 134 millions en 2030. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale du tourisme dans son rapport annuel publié le 15 août. Au Cameroun, à mi-chemin de l'exercice 2017, la masse monétaire s'établit à 41 132 milliards de francs CFA, d'après des chiffres publiés par le Comité monétaire et financier national. La croissance réelle s'établit à 4,2%, ce qui est inférieur aux prévisions initiales de 5,7%. Le pays subit les contre-coups d'une conjoncture économique difficile due à la dépréciation des cours des produits du pétrole et des produits de base, ainsi que le défi sécuritaire avec les activités du groupe Boko Haram dans l'extrême nord du pays.
Et à présent, la page de sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
En football, l'Afrique du Sud dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2018.
En ligne de mire, la double confrontation face au Cap-Vert, les 1er et 5 septembre prochains. L'aller se jouera à Praia, le retour à Durban. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Stuart Baxter, a convoqué 25 joueurs, une liste comportant 4 changements, les retours de Gould et Serrero. On note la présence de Keegan Dolly et de Kermit Erasmus.
Barrage retour de la Ligue des Champions à suivre demain soir.
Avantage pour Naples qui se déplace à Nice avec 2 buts d'avance après le succès des Napolitains à l'aller. Côté niçois, les 2 joueurs phares du club, Mario Balotelli et la recrue néerlandaise Wesley Sneijder devraient être alignés. Séville, de son côté, avait gagné 2-1 à l'aller en Turquie contre l'Istanbul, Başakşehir. Mercredi, ce sera à Liverpool de recevoir Hoffenheim après également l'avoir emporté 2-1 à l'aller.
On parle transfert à présent.
Samir Nasri dans l'impasse à Manchester City où le meneur de 30 ans était arrivé en 2011, s'est engagé pour 2 ans avec Antalya Sport. L'international français, plus appelé en sélection depuis 2013, était arrivé dimanche dans la station balnéaire du sud de la Turquie après avoir été prêté la saison dernière au FC Séville par l'entraîneur Pep Guardiola qui ne compte plus sur lui chez les Citizens. Quant au Camerounais Samuel Eto'o, il devrait rester en Turquie malgré des rumeurs de départ. On parle aussi d'Ismaël Benacer qui va découvrir la Série B. L'international algérien de 19 ans a quitté Arsenal lundi afin de s'engager avec Empoli jusqu'en 2021.
Et Nadal qui retrouve les sommets du tennis mondial.
Rafael Nadal a officiellement retrouvé à 31 ans la tête du classement ATP qu'il avait cédé le 7 juillet 2014. L'Espagnol était assuré de détrôner le Britannique Andy Murray depuis le forfait de Roger Federer au Masters de Cincinnati. Et chez les dames, l'Espagnol Garbine Muguruza a retrouvé la 3e place du classement WTA au lendemain de sa victoire à Cincinnati. Elle est juste derrière la Roumaine Simona Halep, finaliste malheureuse. Et puis toujours numéro 1 de ce classement, la Tchèque Karolina Plíšková à 1 semaine de l'US Open, qui est le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Élu député alors qu'il est toujours en prison pour détournement présumé de deniers publics, le sort du maire de Dakar est aujourd'hui incertain. Les partisans et avocats de Khalifa Sall évoquent l'immunité parlementaire pour réclamer sa libération dans les meilleurs délais. Les autorités sénégalaises, elles, jugent que ce débat est préjudiciable à l'indépendance de la justice, qui est la seule habilité à se prononcer. C'est Dina Bagay.
Depuis 2009, je travaille, je ne gagne pas ma vie parce que me donne la vie. Je ne vis pas de la mairie, je ne vis pas avec les moyens de la mairie.
Le 5 mars 2017, le maire de Dakar tenait sa dernière conférence de presse avant son incarcération quelques jours plus tard dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Depuis, ses militants se battent pour sa libération. Après avoir épuisé la majorité des recours juridiques possibles, il s'accroche à l'immunité parlementaire que pourrait lui accorder son nouveau statut de député. Babacar Diop est le coordonnateur du mouvement politique du maire de Dakar.
Pour la libération du président Khalifa Boubacar Sall, une fois élu député, il bénéficie de l'immunité parlementaire et nous savons tous qu'un député ne peut pas être en prison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette conférence de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à sa libération immédiate. Khalifa Sall, Inch'Allah, comme il avait si bien dit, il sera aux élections législatives et il sera aux élections présidentielles.
Cette position est confortée par l'avocat de Khalifa Sall. Maître Clédor Sirelli a toujours affirmé que l'affaire était loin d'être purement juridique.
Khalifa Aboubacar Sall a été arrêté dans un contexte, dans des circonstances qui sont évidemment politiques, qu'il est maintenu en détention pour des raisons politiques. Et s'il devrait en sortir aussi, tout le monde s'attend à ce que même si on y met la forme, que cela soit pour des raisons politiques.
Ces allégations sont battues en brèche par le ministre de la Justice. Maître Sidiki Kaba affirme que l'affaire Khalifa Sall n'a rien de politique et que ce dernier ne peut pour le moment pas prétendre à l'immunité parlementaire.
Ce n'est pas le député Khalifa Sall qui a été arrêté. Celui qui a été arrêté est quelqu'un qui avait maille à partir avec la justice à partir d'un rapport de l'inspection d'État que vous connaissez. Je ne commente pas le reste. C'est parce qu'il a été mis en prison, il est en train de l'user. Ça a été devant la cour d'appel, c'est actuellement devant la cour suprême. Maintenant, l'antériorité des faits par rapport à son élection, c'est un autre problème. Lorsque le débat sera posé, la justice répondra en tenant compte des éléments qui sont l'inviolabilité ou l'immunité d'un député. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien, il y a aujourd'hui un débat pernicieux, médiatico-politique, qui est un harcèlement tendant à violer l'esprit de l'indépendance et la conscience des magistrats pour faire accroire qu'aujourd'hui il y a eu une violation des textes. Il n'y en a pas.
Malgré ses multiples recours devant la justice, Khalifa Sall n'a toujours pas eu gain de cause. En attendant un ultime passage de son cas devant la Cour suprême, le maire de Dakar a peu de chances d'accéder à l'Assemblée nationale si sa situation politico-judiciaire ne connaît pas d'évolution favorable. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
À votre avis, ce soir, à 18h, temps universel, en Afrique, quelques 400 millions de personnes sont privées d'accès à l'eau potable. Le manque de cette ressource constitue un frein au développement et à la croissance du continent. Auriez-vous un accès facile à l'eau potable? Quel est le problème qui s'oppose? Quelles sont les conséquences sur votre quotidien? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur Facebook ou appelez au 001 202 205 26 33. Eric Manirakiza sera en votre compagnie. A tout de suite.
Le Burkina Faso a perdu Salif Sayo, le président de l'Assemblée nationale, est décédé samedi à Paris. À l'annonce de sa mort, beaucoup ont parlé d'un baobab qui est tombé, tant l'homme avait marqué la scène politique de son pays depuis les années 80. Écoutez Alexandre Sankara, il est député de l'opposition.
C'était un homme politique redoutable, comme on l'a surnommé. Il était de tous les combats depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Il a participé avec Blaise Compaoré à la prise de pouvoir en 1987 avec l'assassinat du président Thomas Sankara. C'est lui qui a fait Blaise Compaoré, si on peut ainsi parler, sur le plan politique. Il était au devant des choses pour la création du parti de Blaise Compaoré, l'ODPMP, ensuite le CDP. Il était de tous les coups bas contre les opposants, contre tous ceux qui se battait contre le président Compaoré. Après, il y a eu la disgrâce, il y a eu le divorce entre lui et Blaise Compaoré. Et il est sorti, il a créé le mouvement du peuple pour le progrès MPP avec Rochemar Christian Kabore. Et il avait juré qu'il allait faire de Rochemar Christian Kabore un président. Et c'est ce qui s'est passé.
Et est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas été lui-même candidat à la présidentielle de 2015?
Non, je crois que quels que soient les qualificatifs, quelles que soient les qualités qu'on lui reconnaissait, l'homme aussi savait qu'il avait des limites. Il savait bien que si c'était lui qui était candidat du parti, ce n'était pas évident parce que c'est vrai, il avait beaucoup d'amis, mais aussi il avait beaucoup d'ennemis. Il ne rassemblait pas large, il n'était pas l'homme du consensus, il était le faiseur du roi, mais lui-même, il ne pouvait pas être roi. Je crois qu'il était conscient de ça.
Alors, on dit que sous Compaoré, c'est lui qui faisait nommer les premiers ministres, qui imposait les ministres importants. Et récemment, on a dit qu'il restait au Parlement et voulait toujours continuer à s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Qu'est-ce que vous en savez?
C'est vrai qu'il avait un peu cette tendance quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il avait un peu réorienté son action dans le franc-parler, dans l'interpellation du gouvernement, de telle sorte qu'on l'accusait même des fois de déstabiliser sa propre majorité. Mais je crois qu'il avait envie, au soir de sa vie, il avait envie de montrer patte blanche, de se racheter et de laisser une très très bonne image de lui à la postérité. Voilà pourquoi il n'hésitait pas à interpeller le gouvernement, il n'hésitait pas à cracher ses vérités, même au premier ministre quand il venait à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était pour lui, je crois à mon avis, dans l'objectif de se racheter et de montrer au Burkinabé qu'il n'est pas, comme on le pense, le monstre froid qu'on lui a collé durant toutes ces années.
C'était Alexandre Sankara, joint par Bagasikoura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Des milliers de Congolais originaires du Pôle fuient les violences qui sévissent dans cette région pour trouver refuge dans la capitale Brazzaville. Ils sont dans des conditions très difficiles, comme nous le dit Nguela Ngosu dans ce reportage.
Cela fait déjà beaucoup de mois que les personnes fuyant la guerre dans le Pôle arrivent à Brazzaville. Elles laissent derrière elles des villages en ruine. Elisabeth Loukou vient de Mbandandunga district.
Je suis paralytique. En fuyant le village, j'ai abandonné mon tricycle en chemin. Là, je ne peux pas me promener pour chercher de quoi manger. Je suis quand même une personne. On souffre et on est sans assistance.
André Mayela, du village Kimpanzo 1, se retrouve à Brazzaville avec toute sa famille après avoir tout perdu derrière lui.
C'est en pleine nuit que les ninjas sont venus nous faire sortir de nos maisons. Quelques temps après, le village a été brûlé. Nous avons fui dans les forêts avant de regagner Brazzaville, où un parent nous héberge.
À Brazzaville, où ils sont arrivés, ils doivent se débrouiller pour survivre. L'assistance humanitaire des pouvoirs publics s'est fait attendre. Les agences des Nations Unies peinent à collecter les fonds. Antoinette Bavuizibio de Kimpanzo 1 raconte sa misère à Brazzaville.
Depuis notre arrivée ici à Brazzaville, nous vivons difficilement. Il faut vendre du bois de chauffe. Nous ne gagnons malheureusement pas grand-chose pour nourrir la famille. Nous souffrons.
Les familles d'accueil n'en peuvent plus et appellent à l'aide.
Surtout le problème de tous les jours, il faut qu'il y ait à manger. Là, c'est, les autres dorment sur terre. Regardez ma maison n'est pas encore finie. Bon. Vraiment, on demande une aide, surtout dans Brazzaville et surtout le Pôle.
Selon la société civile, les sinistrés du Pôle arrivent toujours. Gaspard Mienantima organisent leur enregistrement dans les quartiers sud de Brazzaville.
Nous sommes arrivés aux environs de 2500 que nous avons pu recenser. Et là, on ne recensait que les grandes personnes. Et la majorité vit dans le 8e arrondissement Madibou. Et ils continuent à venir. Tout ça, c'est pénible, c'est infernal.
Un comité d'ONG a lancé un SOS à la communauté nationale afin de venir en aide à ces personnes. Docteur Alex Nzaba.
Nous avons pris contact avec les communautés catholiques, protestantes, musulmanes, les églises de réveil, la communauté kimbanguiste, la communauté salutiste, la communauté ngundiste, les comités de marché de Brazzaville, les entreprises privées, de telle sorte qu'ils puissent nous accompagner dans la recherche de solutions envers ces sinistrés, puisque le gouvernement a déclaré faillite.
Le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le pasteur Ntoumi et ses miliciens ninja à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du Pôle. Nguela Nguesso, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, des millions de touristes et d'astronomes amateurs ont pris d'assaut les 14 États où l'on pourra observer aujourd'hui une éclipse totale. Le phénomène ne s'est pas produit depuis 99 ans. Au moins 12 millions de personnes sur une bande large de 113 kilomètres pourront être les témoins. C'est dans l'état de l'Oregon, sur la côte ouest, que l'éclipse sera visible en premier. Qu'est-ce qui se passe pendant cette éclipse? Enfin, Idriss Fall a joint à Kigali le physicien burundais Christophe Sebudandi.
Ce qui se passe en réalité, c'est que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre, avec son satellite, tourne autour du Soleil. Et ce qui se passe quand l'éclipse se produit, c'est que la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil et en fait crée une ombre qui fait que les rayons du Soleil ne peuvent pas atteindre à ce moment une partie de la Terre. C'est ça l'éclipse.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'observer à l'œil nu?
Parce que le rayonnement est très intense et à ce moment-là est très nuisible aux yeux, tout simplement.
Mais pour le cas des États-Unis, l'éclipse commence au nord-ouest et se termine au sud-est, alors que le soleil se lève toujours à l'est.
En fait, oui, le soleil se lève toujours à l'est, mais ça correspond en fait à une phase de passage où le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement de la Terre autour du soleil ne se trouvent pas dans un même plan. L'éclipse se produit quand les deux plans sont bien alignés. C'est pourquoi en fait il va y avoir un mouvement qui est créé par l'angle de cet alignement.
Et pourquoi, en fait, il y a autant de superstitions autour de l'éclipse?
C'est tout simplement parce que ce sont des choses qui arrivent rarement et qu'on est habitué tout le temps à voir le soleil éclairer la Terre pendant une certaine période et que ces phases qu'on ne savait pas expliquer sont toujours à la base d'explications obscurantiste.
Mais les fausses idées ont la peau dure, dit-on, particulièrement en Afrique.
Bien sûr, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, à ce qui concerne les tremblements de terre, lorsqu'il y a des phénomènes naturels qui ne trouvent pas d'explication suivant les connaissances du moment dans une civilisation déterminée.
C'était le physicien burundais Christophe Sebudandi.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveaux groupes de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Tagnon. À la console, John Dryden. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans quelques secondes, le retour de l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.